L'apôtre Paul ne connaissait pas Rome à l'époque où il écrivit aux chrétiens de cette ville. Pendant les 10 dernières années de sa vie, l'activité missionnaire de l'apôtre avait été dirigée vers les provinces romaines orientales, la Galatie, l'Asie, la Macédoine et l'Achaïe. Il avait fondé, au cours de ses 3 voyages missionnaires, de nombreuses églises parmi les populations païennes de ces régions. Son œuvre de pionnier étant presque terminée à l'est, son regard d'apôtre et d'évangéliste se portait alors plus à l'ouest, aux limites occidentales de l'Empire, vers l'Espagne. Pour s'y rendre, il fallait passer par Rome, cette ville fastueuse qui attirait les peuples du monde entier. Dans le but de préparer son arrivée auprès des chrétiens de Rome, parmi lesquels il espérait tout de même séjourner un certain temps avant de pousser plus à l'ouest, il saisit l'occasion favorable de son séjour en Grèce pour leur écrire une lettre. On était au premier mois de l'année 57 ou 58. Paul se trouvait à Corinthe, chez un nommé Gaius. Son hôte, l'un des premiers convertis de la ville, baptisé par Paul lui-même, était renommé pour sa bienveillance envers les frères. L'apôtre accepta donc son hospitalité pendant le séjour de 3 mois qu'il fit en Grèce cette année-là. Paul avait l'habitude de dicter ses lettres. L'épître aux Romains fut donc écrite par un secrétaire. Celui-ci s'appelait Tertius. À la fin de la lettre, il se nomme et ajoute ses salutations personnelles à celles de l'apôtre. Cette épître fut adressée à tous les élus, les bien-aimés de Dieu qui se trouvaient à Rome. Elle fut ensuite confiée à une sœur nommée Phébé. Cette chrétienne, diaconesse d'une église voisine, établie dans l'un des 2 ports de Corinthe, devait se rendre sous peu à Rome. Paul la recommande donc chaleureusement aux croyants de la cité impériale. Cette épître de Paul est la 6e de celles qui nous sont parvenues, et elle en est la plus importante. Au cours des siècles, cet écrit a eu un impact considérable dans l'Église, étant à l'origine de la plupart des réveils, car l'apôtre y expose d'une manière calme et claire les vérités fondamentales de la foi. Les grandes doctrines chrétiennes y sont rassemblées et exprimées de façon approfondie et systématique. En écrivant cette lettre, Paul, en tant qu'apôtre des païens, eut à cœur d'affermir la foi et de compléter les connaissances de cette église qu'il avait hâte de visiter. Peut-être, à ce moment-là déjà, avait-il des appréhensions pour l'avenir, sachant que son prochain retour à Jérusalem ne serait pas sans danger. Il demande en effet aux chrétiens de Rome de combattre avec lui dans la prière, afin que Dieu le délivre de ses adversaires, les Juifs incrédules de la Judée. Si toutefois le bonheur d'aller les voir, comme il le souhaitait, ne lui serait pas accordé, l'apôtre avait au moins pu saisir l'occasion de leur faire parvenir par écrit l'enseignement qu'il aurait aimé leur donner de vive voix. Et du même coup, cet enseignement capital a été ainsi conservé pour les croyants de tous les temps. Les craintes de l'apôtre furent fondées, car Paul n'irait à Rome que 2 ou 3 ans plus tard, et alors il s'y rendrait dans les chaînes. La lettre débute par les salutations d'usage au cours desquelles l'apôtre annonce en quelques mots le sujet dont il va traiter, l'Évangile de Dieu. Cette bonne nouvelle concerne Jésus-Christ, qui avait été promis de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, qui fut né en tant qu'homme de la race de David et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Cet évangile, Paul va en parler en détail au cours de cette épître. Il dit qu'il n'en a pas honte, car c'est une puissance de Dieu pour sauver quiconque croit, soit juif, soit païen. Par cet évangile, Dieu révèle le moyen d'être rendu juste devant lui. Dieu ne considère comme juste que ceux qui croient, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Ainsi, quiconque place sa confiance en un Dieu personnel, tout-puissant et proche, en acceptant la vie éternelle offerte par lui à ceux qui croient en son Fils Jésus-Christ, celui-là est rendu juste devant Dieu et il vivra. Mais cette foi implique, bien entendu, la soumission à la volonté révélée de Dieu, soumission appelée par Paul l'obéissance de la foi. Cette obéissance, librement consentie par amour pour Dieu, fournit la preuve d'une foi vivante chez le chrétien. Nous en reparlerons demain.